Bonsoir, comment allez-vous ? Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit, près d'elle. « Oh Dieu ! Qu'est-ce que cela ? Je n'en puis plus, on me déchire ! Quoi ? J'accouche d'un œuf ! »
D'un œuf ?
Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas.
La femme neuve, sur ce cas ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine.
« Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre.
Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. »
« Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. »
La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant, à la fin de la journée, il se montait à plus de 100.
« Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir si c'est la poule ou l'œuf qui sont venus en premier sur la terre. Au revoir. »
« Bonjour Antoine. Elle est merveilleuse, ta question. Elle était déjà posée il y a des milliers d'années par des philosophes. Et ils n'avaient pas la réponse. Je crois qu'aujourd'hui, on peut en donner une. Parce qu'effectivement, quand on est en face d'un œuf, on se dit « il y a eu une poule pour le pondre ». Et quand on est en face d'une poule, on se dit « il y a eu un œuf dont le petit bébé poule est sorti ». Alors comment ça a pu commencer ? En fait, la théorie de l'évolution actuellement donne une réponse en disant « mais à chaque fois, à chaque génération, il y a de petites différences, très petites, infimes, mais au fil des générations, quand des milliers ou des millions d'années se succèdent, alors peu à peu, l'espèce change. Les ancêtres de cette poule que tu vois aujourd'hui, eh bien, il y a des millions ou des dizaines de millions d'années, ils étaient différents. Et en remontant comme ceci, des centaines de millions d'années, 1 milliard d'années, on arrive jusqu'à des êtres complètement différents qui ont inventé de s'y mettre à deux pour faire un enfant. C'est-à-dire, en ce qui concerne les poules, eh bien, il y a un coq et une poule, et puis ça fait un œuf, d'où sort un petit poussin, etc. Et puis, avant, ça n'était pas comme ça. Les ancêtres de ces gens-là qui ont inventé donc la procréation sexuée il y a à peu près 1 milliard d'années, sans doute, eh bien, les ancêtres, eux, ils se reproduisaient. Ils se coupaient en deux. C'était des petits êtres infimes, des cellules uniques. Et quand elle s'ennuyait, si je puis dire, eh bien elle se coupait en deux, elle donnait deux fois la même. Et on peut comme ceci remonter, jusqu'à l'apparition sur la Terre, non pas d'un œuf ou d'une poule, qui aurait été le premier, mais d'une molécule qu'on appelle de l'ADN, tu apprendras ça en classe plus tard, qui est à l'origine de tous les êtres vivants. Alors, du coup, on a la réponse à ta question. Il y a, disons, 3,5 milliards d'années, arrive une molécule qui a la capacité de faire un double d'elle-même, et puis peu à peu, elle acquiert le pouvoir de fabriquer d'autres molécules qui se mettent autour. Ça fait des êtres que l'on dit vivants, et progressivement, tout au long de l'évolution, en 3,5 milliards d'années, eh bien on arrive à la prolifération de toutes les espèces d'aujourd'hui. D'un côté les poules, de l'autre côté les poissons, et puis un certain côté qui nous intéresse beaucoup, nous les hommes, nous sommes les descendants d'un ancêtre commun à la poule, au poisson, à tout ce qui vit sur la Terre.
Vous avez certainement reconnu la voix si reconnaissable justement du généticien Albert Jacquard qui nous a quittés en septembre 2013, mais qui venait avec beaucoup de gentillesse et de tendresse répondre aux auditeurs des petits bateaux. Et avant, vous avez aussi certainement reconnu les femmes et le secret de Jean de La Fontaine. Le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions sur le 01 56 40 43 57 et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 5 ans et demi et je voudrais savoir si le roi Dagobert a existé ou pas. Au revoir, merci.
Merci Mouna pour ta question que nous proposons à un historien, un véritable historien, qui a écrit des livres très sérieux. Le dernier, c'est un ouvrage collectif, Histoire mondiale de la France, édité au Seuil. Et plus pour toi, Mouna, chez Bayard, Comment se révolter ? Collection Les Petites Conférences. Patrick Boucheron, pouvez-vous répondre à cette question de Mouna que nous sommes nombreux à nous poser, je crois ?
Mais oui, je ne sais pas si je suis un véritable historien, mais Dagobert, c'est un véritable roi. Il a vraiment existé. C'était l'arrière-arrière-petit-fils de Clovis, donc c'est un roi mérovingien. Il est né vers 602, 605, on ne sait pas exactement, hein, on est au 7e siècle. C'est il y a bien longtemps. Il a été roi des Francs, on ne disait pas encore roi de France, de 629 à 639. On dit que ça a été plutôt un bon roi, il a réorganisé l'administration, il avait un palais à Clichy, près de Paris. Mais ce qui m'intéresse, Mouna, c'est de savoir pourquoi tu penses qu'il n'a pas existé. Peut-être parce qu'il y a une chanson. C'est le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. C'est une chanson qui se moque un peu de lui. Et il y a des textes des chroniqueurs du temps qui disaient qu'il était très maladroit, qui se prenait les pieds dans le tapis.
Et Saint-Éloi ?
Eh bien, Saint-Éloi, il a existé aussi. C'est effectivement l'évêque de Noyon. Aujourd'hui, c'est le patron des orfèvres. Il a aussi inspiré d'autres chansons, mais qui ne sont pas pour les enfants. Et c'était un évêque, et c'est intéressant parce que, au fond, ça dit quelque chose de très juste, cette chanson. C'est que autour des rois mérovingiens, ceux qui gouvernaient vraiment, c'était les évêques. Il y avait Didier, il y avait tous ces gens-là. Voilà. Mais on pourrait se poser la question aussi de quand date cette chanson ? Elle date du XVIIIe siècle et en fait, à travers Dagobert, qu'on ridiculise un peu gentiment, c'est un roi débonnaire et indécis qu'on vise, c'est Louis XVI.
Ah bon ?
Mais oui, c'est une chanson pré-révolutionnaire. C'est le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Patrick Boucheron ? C'est Louis XVI, après tout, le roi Dagobert ?
Parce que on a
des recoupements.
Oui, on le sait. Enfin, on sait pourquoi on la chantait à Paris au début. Hein. Attention, au début du règne de Louis XVI. Après, évidemment, les chansons contre Louis XVI, lorsque on commence la Révolution française, se font beaucoup plus agressives, bien sûr. Là, c'est une manière de se moquer gentiment.
Et voilà, le bon roi Dagobert, c'était Louis XVI.
Dans leur cœur.
Cactus, chanteur Jacques Dutronc et paroles de l'écrivain romancier Jacques Lanzmann.
Les petits bateaux sur France Inter.
Quelquefois, quand on voit des traces de lèvres sur un verre ou des traces de doigts sur une photo ou sur un livre, ce n'est pas très appétissant.
Allô, bonjour, je m'appelle Garant, j'ai 8 ans et je voudrais savoir, dans les empreintes digitales, c'est le nombre de ronds qui varie ou la forme. Merci.
Bonjour, je m'appelle Thibault, j'aimerais savoir s'il existe des matériaux sur lesquels on ne peut pas laisser d'empreintes digitales. Merci, au revoir.
Voudrais-tu faire un mauvais coup? Je pense pas, sinon il mettrait des gants. Camille Chaise, vous êtes commissaire de police.
Alors cette question est très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers, pour résoudre les enquêtes, travaillent beaucoup grâce à la police technique et scientifique. Alors la police technique et scientifique, ça permet de prélever sur des scènes d'infraction tous les petits débris ou les morceaux qui sont restés et que l'individu malfaisant a pu laisser. Alors par exemple, ça peut être de l'ADN qu'on va retrouver sur un cheveu ou sur un crachat, mais ça peut être des morceaux de verre brisés ou d'autres objets qui auraient été laissés par le cambrioleur, par exemple. Alors, les empreintes digitales, on peut en retrouver sur de nombreux supports et sur de nombreuses surfaces. Par exemple, sur un cambriolage, si la fenêtre a été brisée, on peut trouver sur la poignée des empreintes digitales ou si le cambrioleur s'est appuyé quelque part. Et donc, le policier ou le personnel scientifique va prélever, grâce à une petite poudre, ses empreintes sur un petit film transparent qui ressemble un petit peu à un scotch. Et il va les envoyer dans un laboratoire qui va enregistrer cette empreinte dans un fichier qui s'appelle le fichier automatisé des empreintes digitales et qui regroupe aujourd'hui plus de 5 millions d'empreintes digitales.
Cela dit, les empreintes digitales, on les prélève par exemple pour un mauvais coup, mais quand on se fait faire un papier d'identité, on donne ses empreintes digitales.
Alors ça ne rentre pas dans le même fichier.
Ah,
là, c'est un fichier spécifique pour les scènes d'infraction.
C'est le fichier des mauvais
cambrioleurs. Voilà, c'est le fichier des mauvais coups. Et quand il y a un délinquant qui est par exemple en garde à vue au commissariat, on va lui prendre ses empreintes digitales et on va à ce moment-là interroger le fichier. Peut-être qu'il n'a pas commis d'infraction et que ses empreintes n'ont jamais été prélevées. À ce moment-là, il n'y a pas de procédure judiciaire. Mais si jamais ça match, comme on dit, si jamais il y a une correspondance entre l'empreinte trouvée sur le lieu de l'infraction, par exemple du cambriolage, et avec le délinquant qui est en garde à vue, à ce moment-là, l'enquête est presque résolue.
Alors, Garance demandait si c'était la forme des courbes ou le nombre.
Alors, c'est les deux. Ce n'est pas le nombre de lignes qui varie, c'est la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a des empreintes digitales différentes. Même les jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Donc, on ne peut pas faire un mauvais coup au nom de son frère jumeau ou de sa sœur jumelle. Ce que va faire le policier ou le personnel scientifique, quand il va comparer les empreintes, il faut qu'il y ait vraiment 12 zones complètement identiques sur l'empreinte. À partir du moment où ces 12 sont complètement identiques, on estime que la preuve scientifique est là et que les empreintes sont identiques.
Archivérifié, on va dire.
Voilà.
Et alors, en fait, Thibault demande s'il y a un matériau qui n'imprimerait pas, pourrait-on dire, les empreintes digitales.
Alors oui et non, les empreintes digitales vont être laissées un petit peu partout, mais effectivement, il y a des matériaux qui vont moins absorber l'empreinte digitale. Par exemple, si les matériaux sont poreux, qu'il y a des petits trous, ils vont moins absorber l'empreinte digitale. Mais c'est aussi question des conditions climatiques. Si par exemple, l'empreinte digitale est laissée sur un véhicule qui prend une averse, eh ben, ça va dégrader l'empreinte digitale. Et quand le policier ou le scientifique va chercher à prélever, elle ne sera pas en bon état et elle ne sera pas exploitable.
Moi, je rêve qu'il y ait chez moi un réfrigérateur qui s'ouvre aux empreintes digitales, comme mon téléphone par exemple, pour pas qu'il soit pillé pendant que je suis à la radio.
Bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai 14 ans et j'habite à Albi. Et je me demandais pourquoi parfois on parlait de l'Amérique au singulier et d'autres fois des Amériques au pluriel. Voilà, merci.
Belle réflexion de Jacques, 14 ans. Je ne sais pas s'il a raison, Christian Grataloup, vous qui êtes géo-historien, géographe, professeur à Paris, à l'Université Paris-Diderot ou bien à Sciences Po et qui avait écrit, entre autres, l'invention des continents dité chez Larousse.
Oui, Jacques est observateur. C'est
ouais.
Une bonne question. C'est bien observé de voir qu'on utilise de plus en plus l'un ou l'autre. Alors, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, c'est un anglicisme de dire le pluriel.
Ah, ouais.
Voilà. En fait, on a utilisé pendant longtemps plutôt le singulier en français et plutôt le pluriel en anglais. Mais l'Amérique, quand on le découpe comme une partie du monde, plutôt qu'un continent, parce que ça inclut aussi les Caraïbes, l'Amérique, c'est au singulier, comme l'Asie ou l'Afrique. Alors ensuite, on peut sûr par des parties, comme on dit l'Afrique blanche et l'Afrique noire, cette vieille expression aussi.
Ah, c'est parce qu'il y a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Voilà, alors il y a deux. Voilà, on dit, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais il y a aussi une Amérique centrale, on peut dire. Mais à ce moment-là, il y a une Europe de l'Est, une Europe de l'Ouest, on n'est pas des Europes. Donc non, il y a quelque chose de plus subtil là derrière. Parce que il faut pas oublier comment les habitants des États-Unis désignent leur pays. Ils disent l'Amérique, America. Si on a West Side Story en tête, d'ailleurs, pour des gens de mon âge, il y a une chanson, America, America. Voilà. Et de même, eux-mêmes ne se désignent pas comme, moi je les nommerais, c'est-à-dire états-uniens, mais ils se désignent comme américains.
Eh oui.
Mais il m'est arrivé, par exemple, d'enseigner au Mexique, si vous dites l'Amérique pour désigner les États-Unis, vous allez vous faire traiter de gringo, comme ils disent, c'est-à-dire d'états-uniens, de quelqu'un qui est impérialiste. Donc, le terme a ce double sens aux États-Unis, le pays, et puis l'ensemble du continent. Ce qui fait que le slogan qu'on appelle, les historiens appellent la doctrine Monroe, qui avait été lancée au 19e siècle pour demander la décolonisation des dernières colonies européennes, l'Amérique aux Américains, si vous lui donnez le double sens, ça devient très ambigu. Et c'est souvent un symbole de l'impérialisme des États-Unis. Mais remarquons que maintenant, de plus en plus en français, on utilise le pluriel, et je vous donne un usage officiel, le musée qu'on appelle couramment du Quai Branly. Officiellement, il s'appelle le Musée des civilisations d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et des Amériques, au pluriel. Vous voyez, on est un peu contaminé par le vocabulaire des États-Uniens.
Elle nous vient justement d'Amérique du Nord, la petite Billie Eilish, Bad Guy.
Cette petite
Je dis petite parce qu'elle n'a pas 18 ans. Billie Eilish, elle aime flotter dans ses vêtements et elle vient d'une famille de musiciens. À propos de flotter dans ses vêtements, quand il y a la photo de classe, vous soignez votre habillement?
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 12 ans et je voudrais savoir de quand datent les premières photos de classe. Merci d'y répondre. Au revoir.
Ah, les premières photos de classe, Emma. Tu as raison de poser cette question. C'est vrai que c'est assez fascinant, les photos de classe, au point, Christine Charpentier-Boute, que vous avez consacré un livre aux photos de classe qui est édité chez L'Harmattan. Donc, vous pouvez répondre à Emma, Christine Charpentier-Boute.
Bonjour Emma. Les premières photos de classe sont apparues au milieu du 19e siècle, vers 1860. Avant, on ne possédait pas d'image de soi. Ce n'est que dans les familles riches qui pouvaient faire appel à un peintre ou à un graveur pour avoir une image de ses enfants ou de sa famille.
Donc c'était réservé aux riches.
C'était réservé aux riches et c'était assez rare.
Les appareils de photos sont apparus à peu près quand ?
Vers 1839, la photographie est une technique qui commence à être mise au point pour reproduire les images. Mais on a des difficultés à reproduire les gens, à reproduire le mouvement. Et ce n'est que vers 1860 que la technique devient opérationnelle. Alors, les premières photos de classe sont arrivées dans le privé, mais l'État a acheté la technique photographique, ce qui a permis une évolution importante de la technique. Et très rapidement, on a pu faire des photos de groupe dans les établissements. Alors on a commencé par les établissements privés, les grands lycées parisiens ou de province, les établissements de prestige. Et puis, très vite, les enfants dans les écoles ont désiré cette photo. Et un autre bouleversement politique est intervenu en France. L'école, qui n'était pas obligatoire, est devenue obligatoire, laïque et gratuite.
Donc ça, c'est en quelle année, enfants, l'école laïque gratuite et obligatoire ?
Vers 1880. Et donc, tous les enfants ont été obligés d'aller à l'école. Et là, en 1900, il y a une grande exposition à Paris, une exposition universelle. Et l'État français a désiré exposer lors de cette exposition universelle des photos de classe de toute la France. Et l'État a autorisé les photographes, parce que c'était interdit d'entrer dans les écoles quand on n'était pas écolier ou enseignant, a autorisé et a demandé aux photographes ambulants de faire un reportage photographique sur un maximum d'écoles de village. Ces photos ont été exposées à Paris et beaucoup ont été vendues, proposées à l'achat aux familles qui étaient ravies d'avoir le portrait de leur enfant. À cette époque-là, on n'avait pas la photo, coûtait très cher et on n'avait pas la possibilité d'avoir le portrait de son enfant dans sa maison.
Donc en fait, si je comprends bien, Christine Charpentier-Boute, c'est un mélange de progrès technique, d'options politiques et aussi peut-être du regard qu'on a sur l'enfant.
Voilà, l'enfant, avant cette école obligatoire, était un peu considéré comme un petit adulte. Il était obligé très souvent d'aider ses parents, il n'allait pas à l'école. Et le statut de l'enfant a changé à cette époque-là. Il est devenu vraiment un enfant, comme toi aujourd'hui, Emma. Et les parents ont eu envie d'avoir une image de lui dans la maison.
Ce qui est drôle dans ce que vous racontez, c'est qu'en fait, ces premières photos étaient exposées au public.
On l'a proposé aux familles à l'achat et en même temps, elles étaient exposées. Et il y a de grands lycées parisiens ou de grandes écoles, mais aujourd'hui également des écoles maternelles, élémentaires, où on a toute la collection de toutes les photos de toutes les classes de l'établissement.
Quelles archives, avec toutes ces photos de classe, doivent avoir ces grands lycées? Est-ce que vous les avez gardées, vous, vos photos de classe? Je trouve ça tellement rigolo. Moi, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi, en fait. Est-ce que les parents les achetaient pas? C'est vrai que quand il y avait plusieurs enfants, c'était assez cher, quand même. Est-ce que les parents les achetaient pas ou est-ce que ça a été perdu? Je ne sais pas. Faute de photos de classe, nous pourrions faire des photos d'entreprise. Ce soir, sur la photo, Élise Christophe, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham pour la classe des filles, et tout seul chez les garçons, notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr, faire un tour sur notre site podcasté, tout ça. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.